Radio Courtoisie,
indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Bonjour Louis.
Bonjour Charlize Lotte et bonjour à tous nos auditeurs. Replongeons-nous un peu sur le traitement médiatique de la mort de Quentin, 23 ans, tué par des militants antifascistes. Ce qui s'est passé après son meurtre nous dit tout de cette décomposition morale d'une partie de la gauche, pour ne pas dire l'ensemble. Aujourd'hui, on va simplement constater que nous avons franchi un cap macabre. Commençons par le commencement. Des militants ont été inculpés pour le meurtre de Quentin. Réaction normale, le silence, au minimum. Mais sur Le Média, la chaîne mélenchoniste, une antifa apporte son soutien plein et entier aux militants inculpés.
Avant d'engager mon propos sur la dissolution de Némésis, j'aimerais apporter mon soutien plein et entier aux militants antifascistes qui ont été inculpés, à la Jeune Garde, à Raphaël Arnaud et à la France Insoumise.
Premier constat, la mort ne les stoppe pas. Bien au contraire, ils soutiennent leur camp même quand ils tuent. Ce qui met bien mal à l'aise le député Jérôme Guedj du Parti Socialiste et candidat pour 2027, qui annonce qu'il votera, malgré tout, LFI en cas de duel avec le RN.
Moi, je l'ai déjà dit, donc je tombe dans le piège de la question qui est posée.
Non, c'est pas un piège.
Je refuserai toujours et je ferai toujours tout pour empêcher que l'extrême droite arrive au pouvoir.
Donc voilà, vous voteriez LFI.
Je vais vous dire, parce que je ne mets pas un signe égal entre le Rassemblement National et la France Insoumise.
Donc vous
voteriez LFI.
Parce
que je connais des militants et des électeurs de la France Insoumise qui sont dévoyés, parce que je termine ma phrase et que je vais vous dire, quand je vous dis que je refuserai toujours que l'extrême droite arrive au pouvoir dans une ville ou dans le pays, je vais au bout de voilà. Mais cette situation-là,
donc vous voteriez LFI.
Cette situation-là, je veux l'éviter par-dessus tout. Vous savez quoi? Parce que dans
pourquoi
ce cas de figure,
pas,
mais parce que je
vraiment
peux, parce que vous avez parfaitement compris que dans ce cas de figure, je préfère voter pour le candidat quel qu'il soit face au Rassemblement National,
même s'il est LFI.
Même s'il est LFI.
Ça rame. Hein. Même après ça, même après ce meurtre, même après ce soutien aux assassins, le camp du bien toujours. Mais ça devient pire. Quand on ne peut pas défendre les vivants qui ont tué, on salit les morts. France Inter, Radio Public, Service Public, financé donc par nos impôts, compare ce matin Quentin à un martyr nazi des années 30.
Notre drapeau flotte devant nous, ainsi disait en mourant le jeune hitlérien Kvex, et une croix gammée flottait sur les écrans allemands l'été 1933. Hitlerjugend Kvex, c'était un film de propagande très bien fait, adapté d'une histoire vraie, celle de Herbert Norkus, martyr nazi de 15 ans, poignardé à mort par des communistes en 1932. Eh bien, son histoire m'est revenue quand le jeune militant d'ultra-droite Quentin Derenck, mort à Lyon, tué par des jeunes d'ultra-gauche, est devenu un ange français et pour beaucoup de gens ici, une preuve politique.
Un jeune homme de 23 ans est assassiné et Radio France en fait un nazi. Deuxième constat, le service public est devenu une machine à salir les morts. On a également eu droit à un tweet immonde de Ségolène Royal qualifiant le militant de néo-nazi et antisémite en crachant sur la mémoire de Quentin. Face à cette ignominie, Charlotte Dornelas trouve les mots justes.
Vu l'état du recours à la violence d'une partie significative de notre jeunesse aujourd'hui, c'est ahurissant de lire une chose pareille. Et je passe évidemment sur ce qu'a dit Alexandre, présumé néo-nazi par qui est néo-nazi. Est-ce qu'elle se rend compte? Ségolène Royal sait ce que c'est que le nazisme quand même. Est-ce qu'elle se rend compte de la gravité de ce relativisme?
Ils sont en train de ne plus avoir la moindre limite.
Il y a une institution qui ne varie pas dans son message depuis jeudi dernier. C'est l'Église catholique et notamment localement à Lyon. Ils ont rencontré les jeunes, les amis de Quentin, ceux qu'on a appelés à la violence. Vous avez l'évêque, les prêtres des églises qui leur ont dit « on vous en supplie, ne cédez pas à la vengeance. Il est normal que vous éprouviez de la colère, mais n'y succombez pas. » Ils le répètent jour et nuit depuis une semaine parce que, en effet, tout le monde a peur en fait de la réaction des amis ou de proches ou de personnes qui pensent partager les idées de Quentin et qui voudraient aujourd'hui se venger. Évidemment que tout le monde a peur de ça. Cette institution, c'est celle que Quentin avait rejoint il y a 3 ans. Ségolène Royal, elle n'est pas capable de voir ça. Elle, mère de famille, elle n'est pas capable de voir qu'il y a des personnes qui, de toute leur force, tentent d'éviter que ça parte en drame. Que des jeunes Français s'entretuent entre eux pour des histoires d'étiquetage complètement ridicules relayées au sommet de l'État. C'est du délire.
Et plus tard, dans son intervention, Charlotte Dornelas finit par craquer.
Et simplement à rendre hommage à son ami. J'avoue, enfin, bref,
ça m'émeut pour ses amis en fait, parce que je disais tout à l'heure, j'espère que sa famille a éteint la télé. Mais ces amis-là qui le connaissent, moi je le connais pas, Quentin, je l'ai jamais vu, je sais pas qui c'est et tout. Quand j'entends cette fille parler de son ami, je me dis, C'est horrible de lire ça, en fait, qu'ils se taisent. Il y a un gamin de 23 ans qui est mort, que tout le monde se taise, en fait. Personne n'a besoin de parler. Et que ceux qui savent prier, prient, et que les autres se taisent par pitié, en fait. C'est tout.
Simple, humain, digne. Mais non, il ne se taise pas. Il diffame. Comme Elsa Marcel, avocate et militante de Révolution Permanente. Un mouvement politique qu'on pourrait situer à gauche de l'extrême gauche.
On a fait une minute de silence à l'Assemblée nationale pour quelqu'un qui avait des propos ouvertement antisémites. Et ce que je veux dire par là, si vous voulez,
c'est
que.
Vous avez entendu ces propos?
Bien sûr, il faut écouter les. Vous avez lu les communiqués d'une organisation comme le ministre? C'est un militant d'action.
Attendez, si on ne peut pas vous poser des questions, ce n'est pas un débat. Oui. Vous aviez entendu des propos antisémites dans la bouche de ce jeune Quentin?
Je ne connais pas les propos de Quentin. Ce que je vous dis, c'est les communiqués publiés par les organisations qui revendiquent comme leurs camarades.
Vous venez de dire qu'il tenait des propos antisémites.
Ah, mais vous ne savez pas qu'il était membre de l'Action française? Vous savez ce que c'est que l'Action française?
L'Action française a dit qu'ils n'étaient pas membres.
Il l'a appelé comme un camarade.
Troisième constat, ils n'ont plus aucune limite, plus aucune décence. Et le moment où l'indécence devient une stratégie, Raquel Garrido, figure de LFI, débarque sur les plateaux. Notre chroniqueuse Alice Cordier est claire, elle n'a rien à y faire, ni elle, ni aucun membre de LFI, et appelle à cesser cette inversion accusatoire.
Ces gens-là ont instauré un climat qui a fait qu'aujourd'hui, on a un homme qui est mort. Voilà. Parce qu'en fait, énormément, il y a eu des témoignages d'ailleurs de jeunes de la jeune garde qui disaient « Nous, on savait qu'on aurait des postes, en fait, en venant, en faisant le sale boulot. » Le Parisien a fait témoigner quelqu'un, justement, de la jeune garde, qui disait « Nous, on savait qu'on aurait des postes. » Donc ces gens-là devraient se carapater. Même vous, Madame Garrido, vous êtes une ancienne cadre LFI, vous devriez pas être sur un plateau, pardon. Hein. Vous devriez vous carapater, on est le premier jour du carême, vous devriez faire pénitence. Non, parce que tout à l'heure, vous m'avez dit que vous m'avez responsabilisé. On a une jeune femme qui a été étranglée.
Non mais pas ensemble.
Non mais là, s'il vous plaît, l'urgence de partir.
Non mais d'abord, pas ensemble. S'il vous plaît, pas d'attaque personnelle. Non mais s'il vous plaît, pas d'attaque personnelle et pas ensemble.
On m'a attaqué personnellement sur ma responsabilité. J'ai le droit de répondre. Je pense un peu sur le ton. On est le premier jour du carême. Vous pourriez faire pénitence aujourd'hui.
Leur camp tue et il se pose en victime. Guillaume Roquette du Figaro la recadre aussi.
Il y a, ça vous voyez, c'est formidable parce qu'elle attaque et après elle dit « Ah, vous êtes énervé. Oui,
mais je suis énervé par
devant le répondre. » Laissez-le répondre.
Et donc je vais vous répondre en souriant, malheureusement, même si la situation ne le justifie pas. Il y a deux séquences. J'ai dit qu'il y avait une séquence qui était une bagarre. Et ce que vous êtes en train peut-être d'essayer de subodorer, de faire comprendre aux gens, c'est de dire « Ah oui, mais finalement, peut-être qu'il l'a un peu mérité parce qu'il y avait une bagarre. »
Pas du tout.
Non.
Il y a
deux séquences qui n'ont, me semble-t-il, qui sont dans leur nature, sont différentes. Il y a cet affrontement qui est une rixe caractérisée. Et ensuite, il y a des hommes, comme ça vient d'être décrit par le journaliste d'LCI, qui en tuent un autre alors que cet homme est à terre. Et ça, ce n'est pas une rixe, c'est un meurtre. Et si vous voulez que je le répète, eh bien c'est fait.
Mais le plus beau, c'est la députée LFI Danielle Simonet, prise en flagrant délit de mensonge. Et Guillaume Roquette, encore, la confronte.
En l'état de toutes les informations que nous avons en Quentin, rien ne le relie à ces extrémités dont vous parlez. C'est-à-dire un jeune homme alors nationaliste, catholique, très engagé, mais il n'y a aucun signal d'extrémisme violent, d'après ce que je comprends, dans tous les portraits qu'on a eu de lui.
Ben non, je crois que justement, ils sont...
Extrémisme violent, vous avez vu ça où?
J'admire beaucoup Madame Simonet qui arrive comme ça à essayer de tenter de renverser la preuve. C'est-à-dire que en gros, l'agresseur c'est Quentin. C'est
un peu
ce que vous êtes en train de dire. Ce que je trouve extraordinaire, c'est de tout mettre sur le même plan. Et je pense que ce relativisme dont vous êtes, à mon avis, vous n'êtes pas complètement sincère quand vous dites ça, parce que vous essayez de défendre votre camp et en même temps vous connaissez trop la France insoumise de l'intérieur. Vous avez sûrement lu La Meute comme moi pour voir un petit peu quelles sont les méthodes de votre ancien parti. Donc je pense que vous savez bien qu'il y a une forme de violence à la France insoumise, mais par solidarité de gauche, j'imagine, vous essayez de faire croire que c'est Quentin l'agresseur. Je pense que vous n'êtes pas très crédible et vous dites il a été proche de l'Action française. Ben oui, comme le maréchal Leclerc, comme De Gaulle dans sa jeunesse, comme Honoré d'Estienne d'Orve, résistant, héroïque. Donc, c'est pas la même chose de lire des livres radicaux et de tuer quelqu'un à coup de pied. Vous pouvez comprendre ça.
Quand on les confronte aux faits, ils s'effondrent. Quatrième constat, leur narratif ne tient que dans l'entre-soi médiatique. Et pour tenir leur récit narratif, ils réécrivent l'histoire. Sandrine Runel, députée PS de Lyon, affirme que LFI est un parti républicain, contrairement au RN. Elle évoque Jean-Marie Le Pen, on lui rappelle René Bousquet, la Francisque de Mitterrand, et la rafle du Veldiv.
quand on dit qu'un parti est en dehors du cercle républicain, est-ce qu'on contribue à la violence? C'est comme s'il n'était pas un parti normal. Vous pensez, par exemple, vous, que le RN est hors ou dans le cercle républicain?
Ah, moi, je crois, et je l'ai déjà dit, que le RN, non, n'est pas un parti républicain.
Donc, ce n'est pas un parti normal à vos yeux.
Dans le français, non,
et la France insoumise.
Et les filles, et les filles est un parti normal.
La France insoumise, alors, il y a des débats aujourd'hui mais sur vous. Effectivement leur classification.
Mais vous.
Mais aujourd'hui, la France insoumise est considérée comme un parti de gauche et non d'extrême gauche.
Ah, bah, c'est faux.
Non, non, ça vient de changer. Si, si, ça.
Le Conseil d'État
maintient que c'est un parti de gauche.
Non, mais votre avis à vous, Madame la députée, ne vous cachez pas votre avis à vous. Ça veut dire que vous considérez qu'un est normal et l'autre non?
Ah oui, tout à fait. Oui, moi je regarde l'histoire en fait du Rassemblement National. Oui.
Ouais, on va regarder l'histoire du Parti Socialiste aussi. La Francisque, Bousquet, tout ça, ça vous occupe aussi, je pense.
Jean-Marie Le Pen, vous voulez qu'on en parle?
Ah ouais, je pense que René Bousquet, c'est un petit peu là.
De Jean-Marie Le Pen, je crois pas. Non, il est à un niveau très élevé.
Ah bon? Parce que Jean-Marie Le Pen a commandité la rafle du Veldiv.
Bon, alors dites l'un et l'autre. Alors, bon, est-ce que, voilà. Allez, je vous pose la question à l'un et à l'autre. C'est intéressant. Question à l'un et à l'autre. C'est la question à l'un et à l'autre. L'un et l'autre, hein. Est-ce que vous avez honte des déclarations antisémites de Jean-Marie Le Pen?
Mais bien sûr, je l'ai toujours dit.
Est-ce que vous avez honte de la Francisque de François Mitterrand?
Pardon?
Qui a été si longtemps votre président. Est-ce que vous avez honte que tant de socialistes se soient tus sur la Francisque de Mitterrand?
Ils l'ont dit à ce moment-là, et ensuite, derrière, effectivement.
Pas pendant les années de pouvoir, après, quand la soupe était mangée.
Voilà, et cinquième constat, leur antifascisme est bâti sur l'ignorance de l'histoire. D'ailleurs, Alain Bauer détruit ce narratif antifasciste en rappelant l'histoire de la résistance, notamment à Lyon.
Je rappelle pour tous ceux qui n'ont aucune culture historique, et particulièrement à monsieur le maire de Lyon, parce que je suis lyonnais, que dans la résistance, une très grande partie des résistants contre l'occupation nazie étaient des militants de droite, voire d'extrême droite, et que chez les collabos, il y avait pas mal de militants de gauche. Voilà, donc il faudrait arrêter avec cette réduction à d'Hitlerum.
L'histoire qu'il tente d'effacer, l'histoire qui les dérange. Et le détail qui fait froid dans le dos, le journaliste Marc Hainaut le dévoile en détaillant les liens tentaculaires de l'ensemble, je dis bien l'ensemble, de la gauche avec ses antifas ultra-violents.
L'adjoint Grégory Doucet à la mairie de Lyon reconnaissait que la Jeune Garde faisait des formations chez eux. Marine Tondelier a signé l'appel à ne pas dissoudre la Jeune Garde. Ce que je veux dire, c'est que bien évidemment, il y a des liens. Bien évidemment, on a des députés insoumis qui se prennent en photo en train de boxer avec des militants de la Jeune Garde, en train de s'entraîner au combat. Je veux dire, à un moment donné, on peut dire ce qu'on veut. On peut dire que Jean-Luc Mélenchon fait l'objet d'une cabale. C'est lui qui l'a provoqué, la cabale. Si au lendemain de cette affaire, il avait viré Raphaël Arnaud, s'il avait présenté des excuses en disant nous avons effectivement collaboré avec la Jeune Garde, c'était une erreur et nous cessons maintenant toute collaboration avec eux et nous dénonçons avec force sans ambiguïté la mort de Quentin, peut-être qu'effectivement on aurait pu parler de cabale et de jeu politique face à lui. Le problème c'est que, et je reprends ce qu'a dit Sébastien Lecornu à Mathilde Panos, qui à mon avis était très juste, demandez-vous pourquoi plus personne ne veut vous croire.
Et face à ce traitement médiatico-politique plus que révoltant, heureusement qu'il existe encore des hommes comme Éric Zemmour capables de dire en face des journalistes comment ils manipulent les images.
J'ai vu, moi, 3000 personnes à peu près défiler dans la dignité, dans le calme, dans l'émotion. Je n'ai pas vu de voitures brûlées. Je n'ai pas vu de vitrines cassées. Je n'ai pas vu de policiers agressés. Vous voyez, on était loin, très
Mais
loin.
Vous avez vu aussi ça?
Attendez, laissez-moi répondre, je vous assure. J'étais très loin de la soirée de la victoire du Paris Saint-Germain après le Parc des Princes. On était très loin des émeutes de 3 semaines à la suite de la mort de Naël. Vous voyez, très très loin. Il faut comparer ce qui est comparable.
Vous dites quoi, l'ultra-droite est bien éduquée, elle ne frappe pas les policiers.
Je ne crois pas, cette ultra-droite et cette ultra-gauche, c'est des termes ridicules. J'ai déjà eu l'occasion de dire que c'était de l'ultra-foutage de gueule. Vous mettez le projecteur là-dessus, alors que l'essentiel est ailleurs. Mais c'est des méthodes habituelles dans les médias, et en particulier à BFM. Je me souviens que lorsque j'ai réuni 100 000 personnes au Trocadéro à la fin de la campagne présidentielle, vous avez trouvé le moyen d'entendre 3 gamins impubères qui criaient « Macron assassin » et d'en faire le cœur de mon meeting.
Et face à tout ça, que fait le pouvoir? Macron recadre Mélanie qui avait rendu hommage à Quentin. Charles Garbe ironise.
Chacun reste chez soi, les moutons seront bien gardés.
Comme je suis d'accord avec lui, je suis absolument ébloui de tant de vision, parce que après tout, lui, il a toujours défendu la souveraineté européenne, et là, il fait un appel à la souveraineté française. Donc, qui s'arrête pas là, qui nous rende notre souveraineté juridique, notre souveraineté monétaire, notre souveraineté sur nos frontières, notre souveraineté sur notre constitution. Donc, encore une fois, si vous voulez, ce type, il dit tout et son contraire, et il ne supporte pas la critique.
Oui, c'est ça.
Il ne supporte pas la critique. Et pour se débarrasser de la critique, il dit quelque chose qui lui est complètement étranger, c'est-à-dire, lui, il trouve que les moutons français sont bien gardés, si c'est les Allemands qui s'en occupent, quoi.
C'est ça.
Le président de la République recadre une chef de l'État étrangère qui rend hommage à un jeune Français assassiné. Mais il ne dit rien sur les Antifa, rien sur les médias qui soutiennent les meurtriers, rien. Septième constat, le pouvoir a choisi son camp. Et notre chroniqueur, Arthur de Vatrigan, résume, surpris par toute cette ignominie et cette obscénité abjecte d'une partie du personnel politique et de la presse.
Vous avez donc un jeune type qui s'est fait chasser, qui s'est fait lyncher et qui s'est fait tuer avec un acharnement barbare et bestial. Et pourtant, les coupables directs et indirects fanfaronnent encore, mentent avec un aplomb hallucinant et retournent l'accusation. Alors il y a les coupables directs, c'est ceux qui ont tué. Et les coupables directs, ce sont ceux qui ont permis à ce que Quentin Derenque soit tué. Les coupables, on les connaît, les directs, ce sont les antifas de la Jeune Garde, qui, contrairement à la petite rhétorique qui se met en place depuis quelques jours, ne sont pas des fascistes. En lâchant et en tuant Quentin comme ils l'ont fait, ils ont été fidèles à leurs idéaux, à leurs objectifs, à leurs méthodes et à leur histoire. La méthode, on la connaît, c'est la lâcheté et le déshonneur. Ils attaquent masqués, par surprise, en surnombre, et ils filment leur sauvagerie comme les islamistes filment leur massacre. Mais une fois démasqués, ils appellent papa et maman à la rescousse, ils pleurnichent comme un enfant qui a sali sa couche, et ils se refilent la responsabilité comme un mistigri. Évidemment, il y a une bonne partie de la presse, de Libé, à France Info, en passant par Le Monde, Le Canard Enchaîné, je ne parle pas de l'Humanité, parce que l'odeur du sang et des massacres, ça a toujours excité leurs journalistes. Alors ces artificiers-là, ils ont passé leur temps, ils continuent à allumer des contre-feux avec comme seule ligne, salir la victime pour absoudre les coupables. C'est-à-dire aujourd'hui encore, ils tournoient comme des vautours au-dessus du cadavre pour essayer de récupérer quelque chose. Je ne sais pas si on se rend compte de l'abjection. Quoi.
Et cette abjection est devenue une marque de fabrique de ce système prêt à tout pour nuire au camp national. Si la mort ne les arrête pas, rien ne pourra jamais permettre une potentielle alliance pour faire tomber l'extrême-centre. Eh bien, qu'il en soit ainsi.
Merci Louis.
Merci, à la semaine prochaine.
Ligne droite, l'analyse.
Et on poursuit avec l'analyse de Xavier Van Lierde. Bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour Lisette.
Richard De Seize est également avec moi. Vous
Bonjour,
vouliez
Richard.
Revenir sur Bonjour, l'assassinat de Quentin, Xavier Van Lierde.
Oui, j'en suis navré. Je voudrais revenir sur le lâche assassinat de Quentin parce que en réalité, moins de 15 jours après cette mise à mort, nous assistons effarés à un incroyable processus d'inversion accusatoire qui est allé crescendo, puisque désormais, on a l'impression que ce sont les victimes de ce lynchage qui font figure de coupables, et c'est insupportable. Il faut donc d'abord rappeler les faits. Le 12 février, un jeune militant catholique et identitaire est littéralement lynché par un gang de Nervis en marge d'une conférence donnée par la députée LFI Rima Hassan à Sciences Po Lyon. La scène est filmée par des riverains et les images sont accablantes. Alors qu'il gît déjà à terre inconscient, ses agresseurs s'acharnent sur lui à coups de pied, à coups de poing dans la tête, tandis que l'un des meneurs, on le sait maintenant, hurle « Tuez-le !» Et c'est bien ce qu'ils ont fait. Quentin est mort de ses blessures, car, dixit le procureur, ses agresseurs lui ont porté des coups fatals en bande organisée. La violence de l'agression est insoutenable, et elle suscite d'abord, à ce moment-là, une condamnation presque unanime. L'émotion dans la population est immense, et la classe politique se met au diapason, car c'est entendu, un jeune ne devrait pas mourir pour des idées, et la violence politique n'a pas sa place en République. La classe politique dénonce donc bien volontiers cette violence inqualifiable. Car oui, il s'agit bien d'une violence si insoutenable qu'elle est effectivement inqualifiable, au sens où les mots manquent pour la décrire et la nommer. Mais pour ceux qui prononcent ce mot inqualifiable, il a un sens différent. En parlant de violence inqualifiable, ils veulent surtout dire qu'ils refusent par avance de la qualifier, de la nommer, d'en désigner les auteurs. En disant que Quentin a été victime d'une violence inqualifiable, ils ont l'air de compatir, de condamner, mais en réalité, ils affirment déjà leur refus de qualifier ce crime et leurs auteurs. Quentin, à ce moment-là, reste encore une victime, mais une victime sans meurtrier. Il devrait être une victime de la violence, mais pas de la violence d'extrême-gauche. Le processus est bien connu, c'est d'ailleurs le même que celui utilisé après les attentats terroristes, notamment celui du Bataclan, victime donc d'un terrorisme inqualifiable et inqualifié lui aussi, mais surtout pas d'un terrorisme islamiste. L'adjectif manque toujours dans ce genre de circonstances, l'adjectif qui qualifie. Alors on aurait pu en rester là, dans ce moment de déploration de la violence inqualifiée et impersonnelle, de condamnation d'une violence sans visage, d'un crime sans auteur. Puis, comme on le sait, après 3 jours, l'enquête a avancé et les interpellations ont eu lieu. Il est devenu impossible de ne plus qualifier la violence et ses auteurs, car les interpellations n'ont pas seulement confirmé que Quentin avait été victime de la violence d'extrême-gauche, mais qu'il s'agissait d'un meurtre en bande organisée, que cette bande organisée l'avait été par un député de la France insoumise, et que l'un des membres de cette bande d'assassins n'était autre que l'assistant parlementaire du dit député LFI. Dès lors, le crime devenait qualifiable. C'était bien un crime d'extrême-gauche, un crime dont les auteurs n'étaient pas de simples lampistes, mais des cadres du principal parti de gauche. Dans ces circonstances, l'attitude normale aurait dû être de demander des comptes à ce parti, de le sommer de s'expliquer sur l'existence en son sein d'une véritable milice constituée pour intimider, pour terroriser, pour frapper, pour violenter, voire tuer ses adversaires. Le député mis en cause aurait dû être poussé à la démission, mais comme on le sait, rien de tout cela n'a eu lieu. Si bien que 15 jours après l'assassinat de Quentin, les soutiens et les amis des assassins de la Jeune Garde peuvent continuer à se pavaner sur les plateaux de télévision en expliquant combien l'antifascisme est nécessaire, tandis que les amis de Quentin sont, eux, mis progressivement en accusation, sommés de s'expliquer, de se justifier, traqués et même maintenant menacés de dissolution. Je n'exagère pas. 15 jours après l'assassinat de Quentin par l'extrême gauche, le gouvernement envisage de dissoudre des groupes militants, mais pas des groupes militants d'extrême gauche, non, pas des groupes affiliés à la mouvance Antifa, mais il envisage la dissolution des groupes auxquels appartiennent leurs victimes et les amis de ces victimes, c'est-à-dire des groupes militants identitaires, à commencer par le groupe identitaire féministe Némésis, qui avait lui-même été violenté par le gang des assassins de Quentin en marge de la même conférence. Alors, je ne sais pas si vous saisissez l'énormité de la chose. L'État s'apprête en réalité à finir le travail d'éradication que la Jeune Garde n'est provisoirement plus en mesure d'accomplir. Il va se substituer aux nervis d'extrême-gauche pour finir le boulot. Comment expliquer une telle situation? Comment expliquer une telle inversion accusatoire? Un tel scandale? Eh bien, il y a bien sûr de bas calculs politiciens, comme toujours. LFI est aujourd'hui le premier parti de gauche. Sans le soutien de LFI, sans des alliances électorales avec LFI, aucun autre parti de gauche ne peut espérer encore avoir des élus en France. Alors il faut ménager LFI. Alors il faut bien affirmer que LFI n'a rien à voir avec la Jeune Garde et que la Jeune Garde n'a rien à voir avec le meurtre de Quentin. Et puis s'il devient impossible, comme c'est le cas, de nier que c'est la Jeune Garde qui a assassiné Quentin et que la Jeune Garde est bien la milice de LFI, eh bien il n'y a plus le choix. Il faut bien dire que bon, certes la mort de Quentin est regrettable, mais qu'il l'a quand même un peu cherché, ou qu'il ne l'a pas volé. Et que non, bon, bien sûr, c'est regrettable, mais que c'était quand même un facho, hein, et que bon, un bon facho, c'est un facho mort. Ou carrément, comme on l'a entendu sur RMC, que rien ne dit que Quentin n'a pas été tué avant de tuer lui-même, si bien que voilà ces assassins et toute cette bande de journalistes inventer cette notion absolument incroyable de meurtre préventif, en quelque sorte. Massacrer un gamin de 23 ans relève donc du coup du principe de précaution démocratique. Une sorte de légitime défense préventive où l'on s'octroie le droit de tuer ses adversaires au cas où. Mais cette ignominie ne s'explique pas seulement par de bas calculs électoraux. Je crois qu'elle s'explique plus fondamentalement encore par le fait que, contrairement à ce que l'on croit, l'antifascisme délirant, assassin, totalitaire, n'est pas seulement le fait de quelques excités d'extrême-gauche, mais qu'il est en réalité l'idéologie même du système. L'idéologie même du régime, pourrait-on dire. L'antifascisme délirant n'est pas l'apanage de la Jeune Garde. Il est la justification non seulement des alliances à gauche, mais du Front républicain, du cordon sanitaire. Il est le discours autour duquel se font aujourd'hui les élections en France. Il est le système qui permet de rejeter toutes les aspirations populaires. Pour le dire clairement, il n'est pas seulement un calcul, il n'accouche pas seulement d'alliances contre nature, il est ce qui permet de maintenir au pouvoir le prétendu cercle de la raison. Si l'on considère que la question centrale autour de laquelle s'organisent aujourd'hui les clivages politiques, c'est-à-dire la question de la place de la nation, de sa perpétuation, la question de la nation et de l'identité nationale, eh bien alors force est de constater qu'en réalité, les notables macroniens, les bons notables macroniens, ceux qui condamnent soi-disant la violence, eh bien se retrouvent exactement dans le même camp que les nervis de LFI. Ils partagent le même logiciel idéologique, les mêmes aspirations, la même volonté de détricoter ce qu'a été la France. Les centristes pensent que la France est dépassée, les LFistes aussi, et pas seulement les notables macroniens. L'ensemble des institutions du pays contribuent au même projet politique que les nervis de la Jeune Garde. Le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, l'université, les mairies des grandes villes, et aussi, prenons un cas concret,
Quel est le but de la jeune garde? Quelle est son action? En quoi consiste-t-elle? Il s'agit d'arpenter les rues, les meetings adverses, les facultés pour faire taire les adversaires, pour leur claquer le beignet, les empêcher de s'exprimer. Eh bien, quand Jean-Noël Barrot, pas plus tard qu'hier, explique qu'il faut, je le cite, « mettre au pas les réseaux sociaux », est-ce que c'est une action fondamentalement différente et des objectifs fondamentalement différents de ceux de la jeune garde? Non! Seules les méthodes changent. Alors, ils peuvent se pincer le nez, considérer que vraiment, c'est pas bien la jeune garde, mais en réalité, ils participent du même mouvement totalitaire qui consiste à considérer qu'ils doivent avoir le monopole de la parole. Lorsque Jean-Luc Mélenchon, pas plus tard qu'hier aussi, explique que s'il arrive au pouvoir, il va fermer CNews et dissoudre tous les médias de Bolloré, fait-il quelque chose de fondamentalement différent que l'ARCOM quand il ferme C8? Quand il propose de labelliser la presse, eh bien, ce n'est pas seulement un projet, c'est quelque chose qui est déjà en cours et qui s'articule parfaitement avec la volonté mélenchonienne. En réalité, tous ces gens-là forment un système. Alors tout ça n'est pas neuf. La seule nouveauté, en fait, c'est qu'on constate que ces salauds-là, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, sont capables de sceller leur alliance dans le sang d'un gamin de 23 ans. Voilà la nouveauté à laquelle on assiste. Il faut arrêter de se payer de mots. Dans cette affaire-ci, il ne faut pas seulement pointer du doigt, évidemment, il faut pointer du doigt les filles, Mélenchon, la jeune garde et toute l'extrême-gauche, mais il ne faut pas en faire le bouc émissaire trop facile. Ces gens-là sont juste la pointe avancée de tout un système duquel ils participent et dont ils bénéficient. Donc dorénavant, je crois que la seule chose à faire, c'est d'aller voir, on connaît tous des bourgeois macroniens, jusque parfois dans nos familles, et bien d'aller les mettre devant leurs responsabilités. Ils ne peuvent pas s'en tirer simplement en disant « Ah, bah, l'extrême-gauche, hein, c'est pas très bien, etc. » Eh bien, si l'extrême-gauche, c'est pas très bien, il faut couper entièrement les ponts avec elle et cesser d'utiliser d'autres moyens pour poursuivre les mêmes buts qu'elle. Les lignes doivent enfin bouger, car sinon, en réalité, c'est consentir à ce meurtre et au suivant, et à celui de la France, au passage. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin, en étant en colère et en fait très affecté par cette situation absolument insupportable.
Merci Xavier Van Lierde, et je pense qu'il y a beaucoup de Français et en tout cas d'auditeurs qui partagent cette colère, donc merci de vous faire leur porte-voix. On en discute avec Richard de Sèze. Quand vous pointez du doigt cette complaisance, y compris de l'extrême centre vis-à-vis de toute cette violence et même la façon dont ils y participent, je pense qu'on a un exemple très concret. On recevait il y a quelques instants Alexandre Dupalet, qui est candidat à la mairie de Lyon, dans le cadre de ces élections municipales à Lyon. On a le maire écologiste qui réaffirme la possibilité de s'allier avec la France insoumise. Alors il prend des pincettes, comme il dit, voilà, il va se boucher le nez, il va dire, mais seulement si on est sûr qu'aucun individu n'a commis de violence. Mais en réalité, la tête de liste elle-même est prise en photo au sein de l'Assemblée nationale avec un autocollant de la jeune garde collé sur son t-shirt. La tête de liste elle-même affirme son soutien à cette organisation lorsqu'il s'agissait de la dissoudre. Donc,
Et la mairie de Lyon avait un partenariat avec la jeune garde pour lutter, soi-disant, contre les discours de haine et autres. Donc vous voyez, c'est la jeune garde fait partie intrinsèquement du système. Voilà. Y compris du système municipal à Lyon, à l'évidence.
L'adjoint à la Sûreté, Sécurité, Tranquillité, car tel était son titre, qui d'ailleurs ne sera pas renouvelé, si j'ai bien compris, par le maire sortant, avait dans sa lettre de mission, qui est accessible sur son site, un paragraphe très explicite, c'est le 8e paragraphe de la page 2 de la lettre de mission, où il expliquait qu'il fallait qu'il participe à lutter contre l'extrême droite. Donc l'obsession de Grégory Doucet, en nommant cet adjoint à la Sûreté, Sécurité, Tranquillité, était de lutter contre l'extrême droite, et pas du tout de lutter contre l'extrême gauche, la jeune garde ayant déjà été créée, la jeune garde ayant déjà, évidemment, sous prétexte d'autodéfense, ravagé tous les milieux nationalistes lyonnais.
Oui, dans la scène que décrit Liselotte, ce qui m'a le plus navré, ce n'est pas, bien entendu, la tartufferie du maire de Lyon et candidat à sa propre succession, c'est la naïveté ou la lâcheté, je ne sais pas, absolument confondante du candidat qui concourt sous les couleurs de l'UDR et du Rassemblement National. À la question de il était demandé s'il était... partisan lui aussi de la dissolution du groupe féministe identitaire Némésis, présenté désormais comme un groupe d'ultra-droite. Et Sa réponse a été de se dire, ah bah c'est à la justice d'en juger. Moi j'ai pas vraiment d'avis là-dessus, etc. Je crois qu'il faut que le Rassemblement national comprenne une bonne fois pour toutes qu'il faut cesser de feindre, de croire en la justice de son pays et de d'oser comprendre que la justice, en bien des circonstances et notamment les instances qui sont chargées des dissolutions, c'est-à-dire le Conseil d'État, sont non pas des instances neutres qui défendent un réel état de droit, mais au contraire des adversaires politiques qui verrouillent le fonctionnement normal des institutions de façon à maintenir au pouvoir l'extrême centre. Il faut avoir maintenant le courage de désigner ses ennemis. C'est absolument insupportable de voir un parti d'opposition légitimer, donner de la légitimité à ceux-là même qui le condamne et le juge en permanence. Ce n'est pas une attitude responsable, en l'occurrence. Il faut cesser de croire au théâtre d'ombre absolument ignoble auquel on assiste, car c'est se condamner à ne pas désigner la véritable nature du système auquel on est confronté, qui est une nature totalitaire. Nous sommes confrontés à un système totalitaire. Lorsque l'ensemble des institutions d'État, du Conseil constitutionnel, Conseil d'État, Cour des comptes et autres sont truffés d'adversaires politiques qui prennent des décisions absolument partisanes pour bloquer toute possibilité d'alternance politique, c'est que nous sommes face à un système totalitaire. Il est temps que le Rassemblement national s'en rende compte et qu'il désigne ses adversaires-là plutôt que de se séparer de ses véritables amis. Je veux dire, j'étais absolument scandalisé aussi, et les choses doivent être dites, de voir une députée du Rassemblement national qui s'appelle Lisette Pollet se séparer hier, le jour même des obsèques de Quentin, se séparer de son assistant parlementaire au motif qu'il était un ami de Quentin. Et que comme Quentin est diabolisé par la gauche, comme on dit que c'est un néo-je-sais-pas-quoi de la giga extrême droite, eh bien, par translation, ses amis seraient eux aussi coupables. Et elle vient valider ce discours absolument dégueulasse en se séparant de son assistant parlementaire. Quelle lâcheté, quelle indignité, quel manque de panache. C'est totalement infernal. On se retrouve dans la situation où Raphaël Arnaud est toujours leader de la jeune garde qui a assassiné Quentin est toujours député, mais où, dans le même temps, l'opposition, celle-là même qui est brimée par la jeune garde en permanence, dont les meetings sont attaqués, se sépare, elle, de son assistant, au motif qu'il est un ami de quelqu'un qui a été assassiné par l'extrême gauche. Mais dans quel pays vit-on et qu'est-ce que c'est que cette opposition ?
Alors, justement, sur cette affaire, mais je pense que ça va vous faire réagir aussi, la députée en question, Lisette Pollet, a partagé un communiqué de presse en expliquant que c'était pas vraiment pour le motif de du licenciement de son collaborateur, c'est pas vraiment le fait qu'il soit ami de Quentin, c'est parce que, étant ami de Quentin, il a été fiché, selon les méthodes décrites il y a quelques instants par Olivier Vial à notre antenne, il a été fiché par cette extrême gauche qui sévit aussi dans la presse, qu'ils auraient retrouvé son activité sur les réseaux sociaux il y a 5, 6, 7, 8 ans peut-être, et qu'apparemment, ce contenu-là ne convenait pas à la députée en question et que c'était uniquement pour cela qu'elle s'en était séparée. Alors ensuite, on peut en douter.
Oui, bien sûr. Résumons. Cette députée et pour de trop nombreux membres du Rassemblement national, il y a certes des exceptions, l'extrême gauche est l'arbitre des élégances. Ils se soumettent désormais l'extrême gauche, le système d'extrême gauche, les antifas, y compris ceux qui résident dans la presse, sont les arbitres des élégances et quasiment les directeurs des ressources humaines désormais du Rassemblement national. Il faut les balayer leurs critiques d'un revers de main et les renvoyer à leur turpitude plutôt que de se soumettre sans cesse.
Je voudrais revenir sur...
C'est indigne en réalité. C'est indigne et c'est dramatique parce que ils pensent de la sorte échapper à la diabolisation alors qu'en réalité ils l'entretiennent puisqu'ils légitiment ceux qui créent la diabolisation. Il faut les délégitimer. Il faut dire que, comme la plupart des Français, qui écoute encore l'extrême gauche en France ? Qui se dit « Oh mon Dieu, l'extrême gauche n'aime pas un tel, ça ne doit pas être quelqu'un de bien ». Certainement pas les Français, encore moins les électeurs du Rassemblement National. Il n'y a plus que les cadres du Rassemblement National qui pensent à ça. Même les journalistes du Figaro n'y croient plus. C'est quand même inouï comme situation. Et puis par ailleurs, travailler au Rassemblement National, devenir militant du Rassemblement National, se présenter sous l'étiquette Rassemblement National, c'est prendre quand même des risques, un certain nombre de risques pour son image sociale, voire son boulot et autres. Eh bien, voilà comment on est récompensé. C'est-à-dire que ces gens prennent des risques pour s'investir dans un parti, mais à la première bourrasque, la première petite tempête, le moindre crachat lancé par l'extrême gauche, on est lâché par cet appareil. Vraiment, ça donne pas très envie. Hein. Ils devraient réfléchir à ça aussi. Comment voulez-vous que des gens sérieux et qui ont des choses à perdre prennent des risques pour ce parti si au moindre coup de vent, ils vont être lâchés dans la nature. Puis bon, sincèrement, se retrouver lâchés par le Rassemblement National, c'est consternant, consternant. Ils doivent se ressaisir, voilà. Je peux pas dire mieux. Hein.
Eh ben, on espère que le message est passé. Et en tout cas, vous y avez mis le ton et vous y avez mis l'énergie. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur le système. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce sénateur qui, au moment de la manif pour tous, sénateur communiste, si je ne m'abuse, avait expliqué, je le cite, « la justice est un rapport de force ». Et c'était absolument formidable de voir quelqu'un qui est en train d'élaborer la loi et qui nous dit que la loi est un rapport de force, autrement dit que tout ce qu'on nous présente comme étant une espèce d'équilibre éthéré qui tombe du ciel des idées nimbées des délicates valeurs et des délicates vapeurs des valeurs de la République, en fait non, pas du tout, c'est un rapport de force et c'est un rapport de force théorisé par la gauche, assumé par la gauche. D'ailleurs, on dit l'extrême gauche tue. Non, c'est la gauche qui tue. La gauche a toujours expliqué qu'en fait, il y avait le pouvoir, il y avait la puissance, et qu'il s'agissait de capturer cette puissance, de la conserver par tous les moyens, même illégaux, et la Jeune Garde est là pour le prouver. Alors que la droite vit dans un monde de bisounours, ou pas du tout. Une fois qu'une prétendue volonté populaire a accouché d'une prétendue souveraineté qui délègue prétendument à de prétendus représentants la possibilité de faire des lois, ces lois sont évidemment la pure expression d'une volonté populaire qui d'ailleurs ne varie pas de 1908, le 13 mai, jusqu'à 2048, le 14 décembre. Ben, non, en fait.
Je suis d'accord avec votre analyse. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement... On pourrait gloser sur les limites de l'expression de la volonté populaire et autres, mais là, on est quand même passé au stade suivant. C'est-à-dire qu'on est passé au stade où les valeurs de la République, voilà, dans laquelle on peut mettre à peu près tout le programme de l'extrême-gauche post-nationale, doivent primer sur la volonté populaire. Les Français ne veulent plus de l'immigration de masse. Ils veulent que la France ait droit à la continuité historique. Mais non, c'est contraire aux valeurs de la République, et donc on ne les écoute pas. On ne les écoute pas, et même on rejette au banc et aux marges de ce fameux cercle de la raison ou cercle des partis républicains, tous ceux qui ne pensent pas de la sorte. Et l'arnaque est là. C'est-à-dire qu'on est dans une telle situation de radicalisation de ces gens-là, de radicalisation dans le projet, que en réalité, tout le monde va être un jour nazifié. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire que l'attitude qui consiste à dire « Oh mon Dieu, je vais me séparer d'un tel parce que, oui, ok, il serait peut-être un peu trop dur. Hein. » Il paraît que c'est un catholique traditionnaliste, c'est-à-dire, comme je l'ai lu dans le truc, une église où il y a du curé en soutane. Vous imaginez ça ? Des curés en soutane au XXIe siècle ? Et du coup, oulala, non, je ne peux pas être tout à fait associé à ces personnes-là, donc je m'en sépare. Mais les suivants, ce sont ceux-là même qui s'en sont séparés. C'est un processus, le processus révolutionnaire dévore et va toujours plus loin. Et donc, il faut lui mettre un coup d'arrêt et pas se dire qu'en y participant, on va y échapper. C'est exactement la mauvaise attitude. Il faut y mettre un coup d'arrêt définitif. Sinon, on commence par se dire « Ah, moi, je suis quand même raisonnable, je suis abonné au Figaro Magazine, donc j'échapperai à ce processus. » Que nenni, les lecteurs du Figaro Magazine y passeront comme les autres s'ils ne participent pas à la mise un coup d'arrêt à ce processus de nazification permanente de tout opposant politique. Et ça vaut aussi d'ailleurs pour tous les partis politiques qui pensent pouvoir échapper à ce processus. Enfin, c'est connu, dans la Révolution française, c'était la même chose. Les gens pensaient échapper à la terreur en y participant, et à la fin, ils étaient rattrapés, ils finissaient sur l'échafaud, comme tout le monde. Pour que la terreur s'arrête, il faut arrêter de collaborer avec les terroristes. C'est la seule méthode. Et c'est à dessein que j'évoque cette période, parce que une des références quand même principales de l'extrême-gauche aujourd'hui, c'est quand même la terreur et Robespierre. C'est dans leur logiciel, et eux sont conséquents, et appliquent leur programme et leur méthode. Et je pense que quand ils voient la droite jusqu'au RN se décomposer et participer à ce processus, ils se disent, eh bien, on est véritablement, sont des branques, et on est en train de gagner. Parce qu'ils ont eu très peur, malgré tout. Ils ont eu très peur au moment de l'assassinat, ils ont eu très peur d'être dévoilés et d'être désignés. Mais voilà, 15 jours plus tard, de lâcheté en lâcheté, de lâcheté de droite molle en lâcheté de droite molle et de collaboration du centre, eh bien, ils s'en tirent. Ils s'en tirent et ils commencent déjà à cibler ceux qui ont courbé l'échine devant eux.
Et ils s'en tirent aussi grâce, malgré tout, il faut quand même le signaler, à la complicité massive de la classe journalistique qui a décidé qu'elle avait son propre agenda. C'est-à-dire, on a vu défiler sur les plateaux des télévisions publiques l'intégralité de la gauche pour expliquer que la gauche était honnête et que la gauche était non violente, quelle que soit l'histoire de la gauche. Et il n'y a que sur les plateaux de CNews que, d'un point de vue télévisuel, on rappelait quels étaient les crimes de la gauche, des crimes qui datent effectivement depuis au moins la Révolution française, en passant par toute l'histoire du communisme au XXe siècle. Et il y a de la part de ceux qui...
ça vient, Richard, ça vient confirmer ce que nous disions, c'est-à-dire que l'ensemble du paysage médiatique qui a soutenu ce narratif de gauche ne se limite pas du tout, comme on pourrait se l'imaginer ou comme on se l'imagine bêtement parfois, aux télévisions de service public. Il faut y inclure BFM, il faut inclure LCI et TF1. Groupe Bouygues, hein, quand même. C'est pas... C'est le groupe Bouygues, c'est quand même du gros capitalisme mondialisé. C'est-à-dire que tout ça forme quand même système de façon très congruente. C'est pour ça que je pense que la véritable méthode consiste maintenant à mettre ces gens-là devant leurs responsabilités. Voilà. C'est-à-dire que je n'ai pas d'espoir de convaincre l'extrême gauche que vraiment c'était une saloperie ce qu'ils ont fait. Je n'ai aucun espoir de cela. En revanche, il va falloir commencer à mettre leurs complices et futures victimes face à leurs responsabilités.
On a eu des réactions à l'international après cette affaire Xavier Van Lierd, et donc notamment de la part des États-Unis. Ce à quoi a répondu M. Barrot, que nous n'avions pas de leçons à recevoir de quiconque, et donc encore moins de l'international réactionnaire.
Oui, mais c'est ça. Mais quand il disait « je veux mettre au pas les réseaux sociaux », c'est parce que les réseaux sociaux seraient la caisse de résonance de ce qu'il appelle l'international réactionnaire. C'est un aveu quand même assez formidable, d'ailleurs, parce que on nous explique que tout cet arsenal est fait pour lutter, soi-disant, contre les fake news, ou alors carrément contre les fascistes, ou des néo-nazis.
Et pour protéger les enfants.
Mais finalement, c'est l'international réactionnaire. C'est-à-dire qu'en fait, aveu, en République française centriste et progressiste d'aujourd'hui, être réactionnaire mérite d'être réduit au silence. Voilà, je ne savais pas. Enfin, il y a une extension du domaine de l'inacceptable pour ces gens qui est absolument totalitaire, sidérante, et à laquelle, une fois encore, il faut mettre un coup d'arrêt. Voilà.
Et ce qu'il y a de remarquable, c'est que Jean-Noël Barrot expliquait qu'on était perturbé, en fait, par ce qui vient de l'étranger. Autrement dit, que les Français n'aspirent qu'à une tranquillité. Et cette tranquillité, il n'y a que le gouvernement qui est capable de l'assurer en les protégeant en fait de tout ce qui serait perturbant selon eux, et qui est notamment le fait que même si en France le système médiatique et politique considère que la mort de Quentin en fait ne prouve rien de la nocivité de la gauche, eh bien il ne faut absolument pas que quelqu'un de l'extérieur puisse intervenir et expliquer qu'il est scandalisé. Voilà, c'est vraiment je trouve ce mot de perturbation ce mot de perturbé m'a absolument enchanté quand je l'ai découvert ce matin à la faveur de la rediffusion de cet extrait de Jean-Noël Barrot.
Il y a un député LFI qui expliquait qu'en fait, il y avait deux camps. Hein. Il y avait les fascistes et les antifascistes.
Antoine Léaumont.
Ah, c'est Léaumont, voilà. Le Léaumont aux lèvres fines de Robespierriste nous explique que donc il n'y a que deux possibilités, soit on est fasciste, soit on est antifasciste. Eh bien, c'est la même rhétorique, en réalité, que celle de l'extrême-centre. Soit on est du cercle de la raison, soit on est en dehors.
Il n'y a pas
de multiplicité, c'est-à-dire que c'est l'un ou l'autre, et ça c'est vraiment le principe même du discours totalitaire. Soit on est du bon côté, soit on est du mauvais, et on doit être épuré. Alors que la vie démocratique et la vie simplement elle-même, c'est l'éclosion d'une multiplicité d'options, de possibilités entre lesquelles choisir, auxquelles recourir, dans une explosion de réelle diversité. Mais ces gens-là n'aiment pas la diversité, c'est blanc ou noir. Soit on a du bon côté, soit on doit être brimer, de taper et même tuer désormais. Voilà.
Avec cette idée, encore une fois, que on est très supérieur moralement quand on est dans ce cercle de la raison, puisque c'est quand Jean-Noël Barrot dit « Nous n'avons pas de leçons à recevoir des États-Unis », il y a quelque chose d'un peu condescendant. Je ne suis pas sûre qu'on soit vraiment bien placé, en l'occurrence, en tout cas sur cette question des violences politiques et d'extrême-gauche. Merci beaucoup, Xavier Vanlier, d'avoir été avec nous. Merci pour ce coup de gueule. Encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui se reconnaîtront à travers vos mots, donc c'est une façon de leur donner la parole aussi. Et je vous dis à la semaine prochaine.
Vous aussi.
Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros. Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux.
Ligne droite, la revue de presse de Gilles Brochard.
Bonjour Gilles.
Bonjour Liselotte, alors vous avez choisi votre camp ?
Ah bah écoutez, je laisse les auditeurs le deviner. À un peu plus de 2 semaines du scrutin, les municipales reviennent en force dans les pages des journaux et sont révélatrices du climat qui s'annonce post-macroniste.
Oui, alors c'est un petit peu la suite de l'entretien que vous avez eu ce matin avec Alexandre Dupalet, mais c'est amusant de constater que certains candidats macronistes ne font plus état de leur soutien au président de la République et vont jusqu'à se présenter sans étiquette. À l'image de Franck Riester, qui souhaite conquérir la mairie de Coulommiers avant qu'il se sentirait plus utile là-bas qu'à l'Assemblée nationale. Alors Figaro a mené l'enquête sur ses documents de campagne, écrit Loris Boischaud. Son visage apparaît fendu d'un large sourire, mais il n'y fait figurer aucun logo de Renaissance, la formation de Gabriel Attal dans laquelle il pilote des élections. Son adversaire le péniste, François Lenormand, s'en amuse sur la place du marché, tract en main et parapluie rouge sur l'épaule. Il paraît sans étiquette, ce qui n'abuse personne. Il essaie de se créer une virginité politique, mais nous, on assume nos convictions, l'union de la droite. Alors Franck Riester l'assure pourtant. Je suis très fier d'avoir participé au gouvernement d'Emmanuel Macron, mais si je ne suis pas d'accord sur un certain nombre de choses, mais je ne suis pas d'accord avec un certain nombre de choses avec lui. Alors depuis la dissolution, je n'ai pas compris toutes ses décisions ces dernières années, dit-il, à la manière de son ami Gabriel Attal. La décision surprise du chef de l'État en juin 2024 l'avait placé dans une bien mauvaise posture face au RN. Mais il avait bénéficié au second tour du retrait de la candidate insoumise qu'il a aidé à se maintenir avec 54,40% des voix. Et puis à Pau, bien sûr, François Bayrou qui tente de se faire réélire pour la troisième fois. Alors même chose, pas de mention de son groupe, le Modem sur ses affiches. Le même journaliste, Loris Boischaud, a enquêté et rappelle que l'allié historique d'Emmanuel Macron a passé 9 mois comme Premier ministre jusqu'à sa chute sur un vote de confiance le 8 septembre. L'homme à l'allure renouvelée, col roulé et lunettes, assure ne pas ressentir d'effet négatif après cette épreuve, persuadé que c'était un motif de fierté pour les Palois d'avoir un Premier ministre à leur tête. Alors il leur dit que sa notoriété lui permet d'aller défendre les dossiers locaux à Paris, mais face à la chaîne des Pyrénées, François Bayrou s'efforce de se sculpter une stature de maire bâtisseur. Alors en 12 ans, tous les Palois ont vu la ville se transformer du tout au tout, fait-il valoir. Pau est revenu sur la carte de France, sur la carte du monde, s'enflamme son colistier Jean-Marc Grussaut, un vigneron réputé dans le département. Mais de son côté, Margot Taillefer, la candidate RN passée par Reconquête, tente de se qualifier au second tour pour provoquer une triangulaire. Sa qualification lui permettrait d'envoyer des élus au conseil municipal, écrit le Figaro, quitte à affaiblir le front anti-gauche que peut espérer mener François Bayrou pour l'emporter.
Et alors, qu'en est-il de la répartition des pouvoirs entre les maires et les élus minoritaires ?
Alors justement, c'est la question que pose La Croix. Ce n'est pas une question inintéressante. En une et en double page, le quotidien se base sur un collectif d'élus qui vient de rendre public les résultats d'une vaste consultation via un questionnaire en ligne et 500 entretiens téléphoniques. 99% des conseillers d'opposition décrivent des pratiques contraires à un fonctionnement démocratique abouti. Bilan édifiant qui a un effet dissuasif, leur taux de démission est 2,5 fois plus supérieur à celui des autres élus, souligne Yvon Rosconval, qui est conseiller d'opposition sans étiquette à Triel-sur-Seine dans les Yvelines et co-initiateur du baromètre. Même constat du côté d'Aeolo, vous savez, c'est l'association nationale des élus locaux qui compte 1 million de membres. Le maire a encore aujourd'hui tous les pouvoirs, tempête son président, Jean-Paul Lefebvre. Le seul réel moyen de contrainte est la démission d'au moins 30% des membres du Conseil pour provoquer une nouvelle élection. Alors on le sait, depuis 1992, le législateur a donné des garanties au respect des oppositions en permettant l'accès à un local ou permettre aussi de s'exprimer dans le journal municipal. Mais certains comme l'AEOLO demandent une réforme du mode de scrutin, souhaitant que la prime majoritaire soit abaissée de 50 à 25%. Ainsi, les oppositions obtiendraient en moyenne 10% de sièges supplémentaires. Autre piste, réserver une présidence de commission à l'opposition, renforcer son pouvoir de contrôle et augmenter les délais de convocation des conseils municipaux pour mieux s'organiser. Le local, c'est l'apprentissage de la démocratie, s'exclame Yves Rosconval, mais s'il n'y a pas de culture du compromis, tous les partis le savent et restent dans le déni. Voilà, à lire dans la Croix.
Et les débats à l'Assemblée sur la fin de vie continuent.
Oui, alors prévu mardi soir, écrit l'Opinion en première page, le vote solennel aura finalement lieu aujourd'hui, ce mercredi, en raison d'un grand nombre d'abonnements et d'un système et d'un rythme difficile à accélérer. Preuve que le projet continue d'emporter une majorité de députés, mais à des degrés divers. Et comme l'écrit Cécile Cornudet dans son édito des Échos, le droit à mourir devait être autorisé dans les cas extrêmes. Les critères ont été élargis, suffisamment flous pour donner libre cours à l'interprétation. Les souffrances physiques et psychologiques constantes ont perdu leur adjectif. Elles pourront être passagères. L'exécutif voulait que la souffrance psychologique seule ne puisse donner accès à la mort. L'Assemblée ne l'a pas voté. Alors l'Assemblée a décidé également que le malade pourra librement demander que le geste de se donner la mort soit fait par un médecin aux grandes dames de la profession. Mais les députés vont-ils y renoncer? On ne sait pas. De son côté, Philippe Juvin, le député, vous savez, droite républicaine, qui est aussi chef des urgences à l'hôpital Pompidou à Paris, a réagi dans le Figaro. Nous avons notamment proposé que le patient puisse voir un psychiatre avant de lui accorder le droit à mourir, ou de prévoir un délit d'incitation à l'aide à mourir, ou des délais plus longs de réflexion. Aujourd'hui, ils sont de 2 à 17 jours. C'est un mois en Belgique, 3 mois au Canada. Et ces garde-fous permettraient d'éviter des dérives et les inclure dans le texte ne coûterait pas grand-chose. Mais le débat s'est crispé. Les partisans de l'euthanasie ne laissent aucune place au doute. Ils ont la certitude de détenir la vérité et que le texte doit passer. Alors écoutons encore le professeur Juvin qui dit que dans ma pratique, à chaque fois que j'ai rencontré un patient qui désirait mourir, sa demande d'euthanasie disparaissait quand on apportait une réponse à ses angoisses et à ses souffrances. J'ai sans doute vu beaucoup plus de morts que la plupart des élus et mon expérience de médecin me permet de dire que ces demandes peuvent trouver une réponse dans la loi Claeys-Leonetti, soit la loi actuelle sur la fin de vie. Elle permet de les endormir très profondément pour qu'ils ne souffrent pas avec la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Son application est plus large que ne l'imaginent les Français. Voilà, c'est à lire dans le Figaro et c'est assez éclairant.
Merci Gilles.
À demain.
On poursuit avec vous en zone libre, zone si libre. Vous voulez bien. Et à ce propos, on a entendu Jean-Frédéric Poisson ce matin,
oui,
qui parlait de votre fin de vie. Voilà. Donc, chers auditeurs, vous pouvez retrouver l'entretien dans la journée sur YouTube.
Et puis, c'est un sujet qui tient à cœur à Jean-Frédéric Poisson et à son mouvement. C'est vrai qu'ils ont défendu beaucoup... de toute façon, les principes de cette loi Leonetti qu'on veut amender, qu'on veut pervertir, entre guillemets, et on arrive à des aberrations assez édifiantes, hein, quand même. Et puis, tous les députés ne sont pas mobilisés aussi pour cette loi. Hein. Je ne sais pas combien vont voter aujourd'hui.
C'est ce que certains déplorent, c'est que le vote aura lieu alors que la plupart n'ont pas assisté au débat.
Alors normalement, il y a un travail d'assistant. C'est là où justement le travail des assistants parlementaires devrait jouer son jeu, puisque les assistants normalement peuvent assister pas dans l'hémicycle mais au-dessus et faire des rapports à leurs députés pour ensuite les inciter à voter ou pas un texte. C'est un peu le travail des assistants parlementaires. Et c'est vrai qu'en ce moment, beaucoup sont sur le terrain parce qu'ils soutiennent des candidats ou sont eux-mêmes candidats dans des élections, même dans des petites villes, et ils sont absents de l'hémicycle. Ça, c'est le jeu parlementaire qui est un peu déficient parfois.
Ouais, mais surtout sur ces questions-là.
Mais bien sûr. Richard.
Oui, le jeu parlementaire est déficient, surtout parce que, une fois de plus,
on a décidé qu'il y avait deux camps, le camp du bien et le camp du mal. Le camp du bien, c'est celui qui est pour le progrès, et le progrès, ça consiste à tuer les vieux, les malades et les inaptes, et le camp du mal, c'est ceux qui veulent prolonger leur souffrance. Une fois qu'on pose le débat comme ça, ça y est, c'est plié, et il faut souligner que, de même que l'ensemble de la presse, dans son immense majorité, est pour LFI, contre les nationalistes, l'ensemble de la presse, par principe, est pour l'euthanasie, contre les tenants des soins palliatifs, etc. Donc le débat est vicié et on comprend très bien que des députés qui n'ont en tête que leur propre élection ou le bienfait de leur parti se moquent en fait comme de Colin Tampon de ces débats-là.
Ouais. Les problèmes de société, c'est quand même ce qui intéresse les Français, parce que dans toutes les familles...
Non, pardonnez-moi, pas du tout. En fait, les Français, ils veulent de l'argent, les Français, ils veulent de la sécurité. Les Français, on n'a rien à talquer de l'euthanasie, en fait.
Oui. Non, mais ce que je veux
surtout
dire...
Surtout, la manière dont on éclaire prétendument
leur comprenait, quoi. Mais ce que je voulais dire, c'est que toutes les familles, normalement, devraient être motivées par cette question qui touche de toute façon toutes les familles pratiquement quand on a des parents, des grands-parents ou des amis qui touchent à ce problème.
Il n'y a alors, pas grand-chose qui a été fait pour les intéresser.
Non, mais il y a...
Et en même temps, Emmanuel Macron qui disait pendant ses voeux qu'il aurait recours à un référendum si on ne trouvait pas de solution. Encore une fois, c'est ce qu'on disait. Bon, avant qu'il nous en propose un de référendum, on a du temps. Mais quand même, proposer un référendum sur l'un des seuls sujets sur lesquels les Français sont peu renseignés, n'ont pas d'avis, pas d'expérience, pas d'écoute des débats, c'est quand même assez fort.
Et puis c'est un gouvernement qui a coupé quand même les personnes âgées pendant la Covid des familles. Hein. C'est quand même quelque chose d'assez significatif en France.
Hein. Il les a coupées des familles et il a autorisé l'usage de médicaments qui ont permis de les faire passer à PATRES plus rapidement. Donc autrement dit, c'est un gouvernement qui a déjà donné les preuves qu'il était en fait un gouvernement d'euthanasistes.
Voilà, il n'y a plus rien à ajouter, ma chère Lieselotte, on a tout dit.
Non, mais en revanche, on va suivre les votes.
Ce qui est intéressant, alors après il y a la navette, mais je pense que c'est intéressant de voir comment, dans les débats, pour ceux qui se sont impliqués dans le débat, il y a eu des vrais débats, il y a eu des vraies prises de position, et notamment de certains médecins, comme le professeur Juvin qui est monté au créneau, il sait de quoi il parle lui en fait.
Oui, et en revanche, il y a beaucoup d'associations qui défendent la vie, qui incitent les Français à écrire à leurs députés en leur expliquant raisons pour lesquelles ils s'opposeraient à l'euthanasie pour faire entendre cette voix qui, comme Richard l'a rappelé, s'entend assez peu dans les médias par ailleurs.
Quand on voit aussi que quand les Français ont écrit à leurs députés, moi ça m'est arrivé concernant l'inscription de l'avortement dans la Constitution et que les députés même de droite ont rallié toute la gauche là-dessus, on peut se poser des questions.
Oui, comme d'habitude. Merci beaucoup Gilles pour cette revue de presse et pour cette zone libre. Merci à vous aussi Richard Ducèze. Et merci à vous chers auditeurs de nous avoir suivis sur YouTube et sur X. Le direct prend fin mais vous pouvez continuer à nous écouter sur la bande FM ou sur rc.fr. C'est toute la journée Radio Courtoisie. Je vous rappelle que la radio a besoin de vos dons. En revanche, si vous voulez pouvoir continuer à nous écouter justement.
Absolument, et notez bien que Radio Courtoisie, c'est une radio avant tout qui émet sur la bande FM et même sur le DAB+, en région parisienne. Donc ça, c'est pour le confort d'écoute, mais vous pouvez l'écouter partout dans le monde, sur Internet et sur YouTube pour Ligne Droite et Restons Courtois. Alors pour nous soutenir et nous permettre de nous développer et d'élargir notre couverture, rendez-vous sur soutenir.rc.fr pour faire un don en ligne en fonction de vos moyens. Et d'ailleurs, je vous rappelle que vous pourrez défiscaliser si vous êtes assujetti à l'impôt sur le revenu. Merci d'avance.
Et tout de suite, on continue à parler de l'euthanasie, justement, avec Jean-Frédéric Poisson.
Ligne droite. Debout les Français.
Et on débute avec Jean-Frédéric Poisson, le président de Via la Voix du Peuple. Bonjour Jean-Frédéric Poisson, merci d'être avec nous. Ah, est-ce que vous nous entendez ?
Je vous entends très bien.
Merveilleux, on vous entend aussi. On est ravis donc d'être avec vous ce matin, et c'est pour évoquer un sujet grave, la légalisation de l'euthanasie à nouveau, puisque les débats s'enchaînent à l'Assemblée nationale. Yann Braun-Pivet a réitéré hier sa volonté de voter un texte au moins avant l'été. Et donc, on va s'interroger avec vous. Où en est-on ? Bon, déjà, vous suivez, vous, ces différents débats. Alors, c'est bien la première question. Où en est-on ? Où en sont ces textes ? Et on rentrera ensuite dans le détail des différents amendements qui sont, au fur et à mesure, votés par nos députés.
Mais en termes de procédure, de déroulement des débats, l'Assemblée nationale votera cet après-midi la proposition, enfin la proposition de loi qu'elle a amendée au cours de la deuxième lecture à l'Assemblée. Le texte ensuite repartira au Sénat pour une deuxième lecture. Il ne sera certainement pas adopté dans les termes identiques par le Sénat, et donc il reviendra à l'Assemblée nationale pour une troisième lecture que Mme von Pivet espère effectivement clore assez vite. Ça repartira pour le Sénat, puis ensuite je pense qu'on aura une commission mixte paritaire. Maintenant, la Constitution ne fixe pas de nombre plafond de navettes entre l'Assemblée et le Sénat, ça peut durer à peu près indéfiniment. Là, je pense qu'il y a une détermination de la présidente de l'Assemblée. Elle est d'ailleurs à peu près la seule dans les grandes autorités politiques de ce pays, à part le chef de l'État qui nous avait promis un texte d'équilibre à la française. Enfin, c'est un truc merveilleux, mais nous allons voir qu'il n'en est rien, comme d'habitude. Et donc, tout est fait pour que le texte soit définitivement adopté avant l'été, effectivement, pour qu'il puisse être appliqué à partir du 1er janvier 2027, qu'il y a là une espèce de frénésie. En particulier, Mme Bompivet, je ne sais pas ce qu'elle a promis à qui, je ne sais pas par qui elle est tenue, parce que si elle y croit elle-même toute seule et qu'elle met tant d'énergie pour adopter un texte aussi violent, c'est inquiétant pour elle, j'entends, mais il y a une petite une possibilité que le texte ne puisse pas être adopté définitivement, ce serait que le Parlement n'ait pas fini de statuer avant les débats budgétaires de l'automne, auquel cas, il ne verrait pas la fin de cette législature. C'est une possibilité, il faut se battre pour ça, et se battre pour faire connaître le contenu qui est plus violent, plus barbare que jamais.
C'est ça, parce que donc après le premier vote du Sénat, beaucoup d'opposants à cette loi pour l'euthanasie s'étaient réjouis en se disant voilà, le texte n'a pas passé l'étape du Sénat. En réalité, ils étaient aussi nombreux à avertir et à prévenir que s'il ne passait pas, c'était peut-être pour pouvoir revenir avec des amendements d'autant plus violents et encore plus choquants pour ceux qui souhaitent défendre la vie. Aujourd'hui, quels sont les principaux risques qui se trouvent dans cette loi, selon vous, Jean-Frédéric Poisson ?
Alors, je vous rappelais à nos auditeurs qu'en tout état de cause, dans nos institutions, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Donc, le rejet du texte par le Sénat indique simplement un élément de climat politique de grande hésitation, pour ne pas dire de rejet transpartisan de ce texte, mais pas plus. La logique majoritaire en Ve République en France finit par s'imposer, malheureusement, parfois. Là, c'est pas un bon exemple, mais on verra bien comment tout ça tourne. Écoutez, de toute façon, le principe même du texte est une insulte à la dignité humaine, puisque j'ai déjà eu l'occasion de dire à ce micro, le simple fait d'inscrire dans la loi, le droit ou la possibilité de tuer son prochain sans encourir de peine particulière est une injure à la civilisation dans son ensemble et à la dignité humaine. Après, vous pouvez prendre le problème par le bout que vous voulez. Vous pouvez mettre toutes les procédures que vous voulez, tous les encadrements que vous voulez, tous les délais que vous voulez, toute la collégialité que vous voulez. La réalité, c'est ça. Il est inscrit à partir de cette... Enfin, quand le débat sera fini, mais le texte qui sera voté par l'Assemblée nationale et adopté probablement cet après-midi légalise la possibilité de tuer son prochain sans motif de légitime défense. La réalité brute, c'est celle-là. Après, le reste, comme dirait Verlaine, n'est pas tout à fait de la littérature, mais pas loin. Alors les risques, il tient dans la déclinaison de ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire cette espèce de folie. J'employais le mot de frénésie tout à l'heure, on voit la même chez les parlementaires et les porteurs du texte, cette espèce de frénésie à vouloir à tout prix que l'euthanasie soit l'alpha et l'oméga, des situations de fin de vie, qu'elle soit préférée à la pratique des soins palliatifs, que tout soit mis en œuvre pour que ceux qui manifestent une petite éventualité ou une petite volonté peut-être d'en finir parce que leur situation personnelle est trop difficile, que surtout ils ne puissent pas changer d'avis. Par exemple, si vous voulez changer d'avis pour un crédit automobile, vous avez 7 jours. Pour votre abonnement Netflix, on vous donne 15 jours de réflexion pour vous être acté. Si vous demandez l'euthanasie, vous avez 48 heures. Donc, ça vous donne une petite idée de l'état d'esprit de ce texte au fond, qui est Et tout est expliqué par ça. Il n'y a pas de collégialité. Ou alors elle est réduite à sa plus simple expression. Il n'y a pas de possibilité de recours pour les familles. Le contrôle du caractère normal et légal de l'acte même de tuer se fait a posteriori, donc c'est un contrôle posthume. Autrement dit, on va contrôler que les personnes qui ont mis fin au jour de leur patient ont fait les choses, mais une fois que le patient est mort, c'est un drôle de contrôle et d'utilité. Et puis, malheureusement, si vous essayez de dissuader quelqu'un de recourir à l'euthanasie, si vous exercez sur lui des pressions morales, alors je ne sais pas ce que c'est une pression morale, mais on pourrait y revenir, bien vous encourez la peine de 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Donc voilà ce texte, tout est dit, après vous pouvez raconter ce que vous voulez, les porteurs du texte peuvent raconter ce qu'ils veulent, c'est un texte barbare, c'est le plus permissif, le plus lâche de tous les textes que nous connaissons, de toutes les lois sur l'euthanasie, et la France aura l'honneur d'avoir ce texte pour seul bilan de 2 quinquennats d'Emmanuel Macron, avec c'est un peu maigre.
Effectivement. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que, on y est habitué dans la Macronie, mais là encore, il y a une grosse bataille sémantique autour de ce sujet de l'euthanasie. Il y a déjà cette volonté de l'appeler aide à mourir. Et effectivement, dans ce dernier texte, beaucoup se réjouissent en disant que un effort a été fait pour renforcer la possibilité de choix du patient, que bien évidemment, ça va s'accompagner d'avancées en termes de financement de soins palliatifs ou autres. Tout ça, c'est de la fumée pour vous, Jean-Frédéric Poisson?
Ah oui, deux réponses très directes. Première réponse, il était question dans la version du projet de loi, de la proposition de loi sur les soins palliatifs, issue du Sénat, d'ailleurs issue de la première lecture de l'Assemblée, d'inventer des maisons spéciales dans lesquelles la pratique des soins palliatifs serait renforcée. Ces maisons ont disparu. Il était question d'imaginer un droit opposable aux soins palliatifs, c'est-à-dire la garantie formelle que tous les patients puissent en bénéficier, qui forcerait l'État, au fond, à mettre tous les moyens en œuvre pour qu'ils soient disponibles par tous. Tout ça a disparu. On regardera avec précision dans le prochain budget de la Sécurité sociale ce qu'il en est des promesses faites à ce sujet. Et puis par ailleurs, il y a eu, comme le règlement de l'Assemblée nationale le prévoit, la dernière salve d'amendement sur un texte, elle porte sur son titre. C'est une fois qu'on a débattu de tous les articles et qu'on débat sur le titre. Et hier soir, à partir de 23h, quelque chose comme ça, enfin toute fin de soirée, il y a eu cette discussion sur le titre. Pardon. Et un certain nombre de parlementaires, je les salue d'ailleurs, hein, parce que j'ai une bonne expérience de ces débats au long cours sur les textes de bioéthique ou sur les textes sur la vie. J'en connais le climat, je connais la manière dont ceux qui défendent la vie sont traités par le camp d'en face. C'est très très difficile à supporter, donc il faut les soutenir et les féliciter, ceux qui sont battus jusqu'à hier soir, ils vont continuer. Donc le débat sur le titre, d'un certain nombre de députés ont dit, mais attendez, c'est un texte sur l'euthanasie, sur le suicide assisté, pourquoi vous ne voulez pas l'appeler comme ça? Il faut quand même être clair sur ce que représente cette loi. Et c'est vrai qu'il y a une exigence de forme, y compris en matière de légistique, comme on dit, c'est-à-dire de manière d'écrire la loi, qu'il y ait entre le titre et le contenu une certaine concordance. C'est aussi ce qu'on demande à un article de journal, c'est-à-dire que le contenu ne dise pas le contraire de ce que dit le titre. Les rapporteurs ont expliqué qu'en fait, non, il ne s'agissait pas du tout d'euthanasie, il ne fallait pas mettre le mot d'euthanasie dans le titre, a dit M. Falorni, l'auteur de la proposition de loi, parce que le mot était dangereux et il était connoté et chargé historiquement. On a envie de dire au rapporteur, c'est pas le mot qui est chargé historiquement, c'est la réalité. Le mot n'est qu'un signe, comme d'habitude, c'est sa fonction. Donc on ne veut pas nommer parce que, évidemment, on a peur de la vérité. Et la vérité, c'est que, encore une fois, on inscrit dans la loi la possibilité de tuer son prochain en dehors des situations de légitime défense sans recourir de peine. C'est ça la réalité brute et brutale de ce texte.
Alors, au moment de ses vœux, Emmanuel Macron avait exprimé sa volonté de soumettre le texte à un référendum. Ce serait la première fois qu'il respecte ses promesses de référendum, mais passons. Voilà, en cas de difficulté à trouver un accord entre les députés, comment est-ce que vous percevez cette solution ? Parce qu'aujourd'hui, on le voit, il y a aussi énormément de médias qui ont fait le jeu des partisans de l'euthanasie en interrogeant des malades qui l'appelaient de leur vœu, des soignants, des experts. Tous se sont enchaînés sur les plateaux pour expliquer en quoi ce serait une grande avancée pour la société. Ceux qui la combattent ont eu un peu moins de temps de parole, un peu moins de capacité d'expression. Donc, est-ce que, voilà, pour une fois, est-ce que le référendum serait véritablement une bonne chose pour la société ?
Je pense qu'en général, le référendum est une bonne chose. J'avais même écrit dans un livre qui s'appelle « La voix du peuple » la nécessité pour un chef d'État d'y recourir au moins une fois par an au cours de son mandat, parce que ça assoit la légitimité des décisions. Alors, moi, j'ai aucune confiance dans la parole d'Emmanuel Macron, mais ça date de bien avant qu'il soit devenu président de la République. Donc, en cette matière-là non plus, bien sûr. Évidemment que dans son esprit, il n'a jamais été question d'organiser quelque référendum de ce soit. Il ne faut pas qu'il mette le nez dehors, le président de la République, parce qu'il sait bien que ça va très très mal se passer. En plus, là, il y aurait une espèce de double effet qui se coule, comme disaient les petits bonbons de ma jeunesse. Premier élément, on votera contre le chef de l'État plutôt que contre ou pour le sujet. C'est assez classique en France, ça existe, pour une partie en tout cas. Et deuxièmement, au fur et à mesure que le temps avance, les Français comprennent qu'il y a dans ce texte, et comme il se durcit de plus en plus, la gauche a beau dire qu'elle a eu le bonheur, la bonne volonté de faire des concessions, de renoncer à des choses qui étaient très chères pour elle, encore une fois, les concessions portent sur des modalités, pas sur le principe, l'important c'est le principe. Et les Français se rendent compte qu'en plus, ce principe est mis en œuvre dans des conditions qui sont d'une violence et d'une indignité que le monde, par ailleurs, ne connaît pas. Donc un référendum aurait une très grande vertu, ce serait de faire apparaître ce texte pour la vérité de ce qu'il est, ce que la longueur du débat parlementaire permet déjà. Donc c'est pour ça que, même si l'Assemblée nationale devait adopter le texte cet après-midi, on va voir ce qu'il en est des votes, hein, c'était grosso modo 300 pour, 200 contre la dernière fois. On va voir que si ce score, ces chiffres évoluent cet après-midi. Et ce serait un bon signal. Je pense qu'il y aura davantage d'opposants cet après-midi qu'au premier vote, qu'en première lecture, parce que un certain nombre de parlementaires, de tous les bords d'ailleurs, hein, ont expliqué que le débat au Sénat avait ouvert les yeux sur le contenu de la loi. On a envie de leur dire, si vous étiez un peu plus attentifs quand on vous dit les choses, vous gagneriez du temps et on en gagnerait tous. Mais à l'expérience, quand on est député, on ne peut pas tout faire, pas tout savoir et pas tout comprendre du premier coup, c'est vrai. C'est-à-dire, sur des textes de cette importance, on est en droit de demander aux parlementaires un peu davantage d'attention et d'engagement. Donc, voyons cet après-midi.
On va suivre effectivement les votes de cet après-midi. On ne manquera pas d'en rediscuter avec vous, Jean-Frédéric Poisson. Évidemment, on souhaite le meilleur pour la société française. Et donc, on espère que cette loi ne sera pas votée, n'aboutira pas. Mais comme vous nous l'expliquez, ça reste quand même un débat très compliqué, une bataille très compliquée. On reçoit aussi régulièrement les députés qui sont engagés sur ce terrain. Et donc, pourquoi pas vous donner la parole avec l'un d'eux. Ça donnera une belle discussion dans les jours à venir. Merci beaucoup, Jean-Frédéric Poisson, en tout cas, d'avoir été avec nous ce matin. Voilà, et à très bientôt.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite, avec Liselotte Dutreuil.
Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été avec nous ce matin. On était ravis de vous proposer ce programme. Si ça vous a plu, je vous rappelle que la radio a besoin de vos dons pour pouvoir continuer à émettre.
Rester indépendant, c'est s'organiser et faire en sorte que nos auditeurs nous fassent confiance. Ils sont 2% à le faire en donnant. Eh bien, je vous demande de rejoindre la grande famille si vous n'êtes pas encore donateur en allant sur soutenir.rc.fr. Un grand, grand merci d'avance.
Quel est le programme du jour ?
Dans un instant, un document d'archives, les chroniques de la vie parisienne de Jean-Paul Chériguès de Olmeta pour un point de vue du marquis sur la politique. À midi, le libre journal des historiens de Philippe Conrad. À 14h, le libre journal des cultures et de l'exploration de Pascal Maurer pour l'iconographie, un trésor vivant. À 17h, le RCMAC de Jean-Étienne Posa, aujourd'hui blanchiment d'idées sales. À 17h30, Restons courtois, dirigé aujourd'hui par Arthur de Vatrigan. 19h30, le libre journal de la résistance française de Nicolas Stocker. Et à 21h30, le libre journal des débats, Charles de Meyer, aujourd'hui pour esthétique et modernité.
Voilà, et demain on se retrouve au micro d'Alexandre de Galzin à 7h. Bonne journée, chers auditeurs.
Bonne journée à tous.